Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne de Radio Campus Amiens. Aujourd'hui dans Info Club Sandwich, je vous propose d'aller à la rencontre du groupe MAB. MAB, ce sont donc Gabriel et Adrien Mabila. Bonjour.
Hello Jeanne.
Salut Jeanne.
Vous êtes donc deux frères qui vivez entre l'Oise et Paris. Et avec votre projet MAB, vous venez de sortir votre premier EP donc le 19 février dernier. MAB, c'est un mélange de pop française, du futur et d'électro un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment est né ce projet-là et cette identité-là ?
Bah, on est frères, donc depuis qu'on est petits, en fait, on a cette envie de bosser ensemble, de créer ensemble. MAB, c'est un projet plus récent, mais en réalité, il est la prolongation, le prolongement de cette envie de bosser ensemble depuis le début. J'ai fait du piano classique petit, on a eu des groupes de rock en tout genre, mille expériences scéniques, dont on en discutait tout à l'heure, dont ici à Amiens, on est venu ici jouer il y a plusieurs années, avant MAB. Et MAB, c'est né finalement il y a 3 ans, quand on a eu envie d'écrire, de commencer cette EP, là qu'on vient de sortir.
Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter, à part que c'est aussi né du fait qu'on avait envie de travailler ensemble, juste tous les deux. On a eu des expériences de groupe, et en fait, être tous les deux, ça nous facilitait un peu la vie, parce qu'on pouvait avancer on avance à la même vitesse, on a les mêmes ambitions. Et du coup, c'était plus simple, au final, à un moment, d'être que tous les deux.
Donc toi, Gabriel, tu t'occupes notamment de tout ce qui est partie chant. Et toi, du coup, Adrien, c'est plus l'instrumental avec piano, basse, batterie, tout ça.
Ouais, ouais.
La prod aussi, un peu.
Exactement. Bah, en gros, quand on est en studio, on compose tous les deux. Gab est donc pianiste de base, donc tout ce qui est clavier, il peut gérer, prod aussi. Et moi, je fais guitare, basse, batterie et compagnie. Et ensuite, on compose et on produit vraiment ensemble. Gab écrit, moi je donne mon avis, j'essaye de l'aider à aller dans une direction, dans une autre direction, mais je me mets pas derrière une feuille, j'écris pas de texte, mais je participe de manière indirecte à l'élaboration des textes.
Complètement, bah, c'est vrai que écrire tout seul, au final, sans retour, sans possibilité de montrer à quelqu'un son travail et d'être orienté quelque part, c'est vraiment compliqué. Et donc, effectivement, on n'est pas vraiment co-auteur au sens où, comme tu le disais, tu prends pas un stylo, une feuille et tu te mets pas à écrire. Mais par contre, tu viens fréquemment me dire « Bah là, cette phrase, on la comprend pas. Ce mot-là, il est trop stylé, il en faut plus dans le même genre. Ça, c'est le refrain. Ça, et c'est aussi comme ça qu'on avance.
Ouais. »
Et après, sur scène, c'est vrai que c'est un peu le découpage que tu disais. Moi, je suis chanteur, j'ai le micro à la main et je me balade partout. Et Ad a ce côté instrumentiste où il va passer de la basse à la guitare, au pad, ou à ce qu'on veut.
Et du coup, au niveau de la composition, comment est-ce que ça fonctionne en général? C'est plutôt vous partez du texte ou vous partez parfois d'une instru et vous posez le texte par-dessus? Ou ça dépend?
Il n'y a pas vraiment de règles à ce sujet.
Il n'y a pas trop de règles. Comment dire, on aime bien, là sur cette EP, il y a plein de choses qui sont parties de moments où on jammait un peu ensemble dans le studio. À la fin, on avait des sessions énormes avec des pistes dans tous les sens et on se disait, putain, au final, là-dedans, il y a ça qui est intéressant. Donc on se concentre juste là-dessus et on repart de ce petit élément qu'on trouve cool. Ça pouvait être, il y a des morceaux, ils sont partis de, par exemple, l'Hadès, c'est parti d'une prod de trap
ultra vénère.
Ultra vénère.
Alors maintenant, c'est une chanson d'amour, vraiment.
Ouais, voilà. Et c'était en fait des espèces de cloches qu'on avait dépitchées, qui avaient un son trop bizarre. Et en fait, dans un beat de trap, bah, ça faisait trap de ouf. Et quand on les mettait en solo, il y avait une autre atmosphère qui se dégageait, qui nous parlait un peu plus. Et au final, là, c'est ce truc-là qui a fait naître le morceau L'Hadès. Donc il y a vraiment des trucs qui naissent de procéder un peu absurde, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de règle quant à la méthode de composition, mais en revanche, il y a ce qui revient constamment, c'est qu'il n'y a aucun morceau qui n'a eu qu'une seule vie. On n'a fait aucun morceau d'une traite, comme ça. Atlas, de base, il avait un arrangement beaucoup plus rock. À la dernière seconde, avant de le sortir, on était sur point d'appuyer sur publier, on s'est dit non, on va pas faire ça, MAB, c'est pas ça, on a refait tout. Tous les synthés, on a rajouté de l'harmonie, on a changé la top line du refrain. L'Instant de Grâce, il a eu peut-être 30 versions différentes. de manière générale, quand on n'est pas satisfait, on reprend le truc à la base et jusqu'à ce que ça matche complètement avec nos envies.
Jusqu'à ce que vous soyez sûr, c'est bon, c'est la bonne version. Quoi.
Exactement.
Ouais. Au total, vous nous faites découvrir donc 7 titres au sein de ouais. cette EP. Doudou 2.0, L'Hadès, Atlas aussi qu'on vient d'évoquer. Toutes ces tares, L'Abondance, Némésis et puis L'Instant de Grâce du coup, qui clôture l'EP. On découvre au fil des titres une musique qui est à la fois très profonde et parfois sombre, donc dans ses textes notamment, mais aussi qui est à la fois très énergique et dans l'instrumentation notamment. C'est une musique sur laquelle on s'imagine très bien danser en festival, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient cette double identité justement entre cette musique à la fois sombre et en même temps joyeuse ?
C'est vrai qu'on aime bien travailler sur les contrastes. On adore Stromae qui est pour moi le roi de cette esthétique-là, de faire danser sur une rythmique sombre, de faire sourire et pleurer en même temps. C'est un maître en la matière et c'est vrai qu'on s'en inspire beaucoup.
Ouais, il est super fort pour faire danser. Tu danses, tu t'éclates et t'oublies un moment que le fond de la chanson est super triste ou, enfin pas forcément triste, mais super profond. Et c'est quelque chose qu'on a toujours admiré chez lui. Je pense qu'on a envie de faire naturellement parce que c'est pas forcément parce que t'as des choses sombres ou tristes à dire qu'il faut le dire de manière lente, déprimée, en parlant tout bas. Il y a qu'à voir par exemple dans les musiques un peu extrêmes, genre tu prends du métal, t'as plein de trucs qui te défoncent, genre c'est super énervé et au final les paroles sont peace, ou à l'inverse, enfin voilà, c'est des contraste qui existe un peu dans toutes les musiques.
Et c'est intéressant aussi de rentrer dans la complexité des émotions. Au final, la tristesse, c'est une on peut parler de la tristesse de manière théorique, mais dans le concret, elle est toujours mêlée d'autres choses, teintée de quelque chose, d'espoir, de quelque chose. Et du coup, dans la musique, il faut rentrer dans toutes ces nuances et dans la complexité de nos émotions. C'est un peu notre rôle.
Il y a une dimension d'ailleurs très introspective dans pas mal de textes, comme dans Némésis par exemple.
Absolument.
Du coup, c'est toi qui écris les paroles pour ces morceaux-là. D'où est parti ce morceau, par exemple ?
Alors, Némésis, c'est donc le leitmotiv, c'est « Je sais que t'es là, j'aurais rendu l'âme bien avant qu'on en finisse ». Et en fait, c'est je m'adresse à mes angoisses, parce que j'ai été longtemps angoissé, j'étais très angoissé avant de monter sur scène, et ça me rendait fou, parce que je me disais « c'est mon rêve d'être là, et en même temps, j'ai envie de disparaître ». Et ce qui me donnait envie de disparaître, j'ai appris à le tutoyer, à le regarder en face, à essayer de me confronter à cette partie de moi qui me voulait pas forcément du bien, qui voulait aussi m'empêcher d'aller là où le reste de moi voulait aller. Ça sonne un peu bipolaire, mais en réalité, je pense qu'on voit tout ça à l'intérieur de nous à une échelle plus ou moins différente. Cette notion de tiraillement est présente dans a priori tous les individus. Et voilà, là on l'a poussé un peu dans l'extrême en personnifiant l'angoisse avec un tu. Je sais que t'es là et c'est de ça qu'est parti le texte.
Vous avez tourné du coup plusieurs clips déjà de vos morceaux. Il y a Némésis justement qu'on vient de citer, mais aussi Atlas ou L'Abondance qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube. Tous ont été tournés près de Compiègne, c'est ça dans l'Oise quasiment.
Ouais, quasiment. Ouais, en vrai, ils ont tous un moment.
Au moins une scène.
Il y a au moins une scène à chaque fois qui était tournée à Hautefontaine. Donc près de Pierrefonds. Sinon, on a tourné dans une forêt là-bas. On a aussi tourné dans le Vexin. Et on a tourné des scènes aussi près de Méry-sur-Oise, dans des carrières énormes. Mais c'est un aspect qui compte énormément pour nous, les clips, l'aspect. Enfin, en tout cas, sur cette série de clips, on les a tous réalisés avec Nathan Fredwell. On voulait une esthétique un peu cinématographique. On est vraiment parti loin.
Alors, ils sont très pro, très très propres en fait, ouais. ces clips. Au niveau du temps, au niveau de l'image, du son, la mise en scène aussi, très travaillé.
Ouais, bah écoute, c'est trop cool que tu nous dises ça, parce qu'on s'est grave pris la tête, on y a mis beaucoup beaucoup d'énergie. On a eu extrêmement de chance de tomber sur des gens des équipes ultra motivées, ultra pro, franchement des gens en or quoi, qui nous ont suivis dans des... Parce que, les clips sont beaux, mais il y a eu 1000 galères pour arriver à ce résultat-là. Et le dernier qu'on a tourné, c'était Némésis, et qui était un peu dur, parce que c'était en novembre, il faisait super froid. Mais c'est un souvenir de ouf.
C'est clair, et on aimait bien avec ces tournages en extérieur, ces tournages dans des carrières, ces tournages dans des forêts, de pouvoir aller explorer des notions un peu de fantastique, d'images un peu fantastiques, de monde merveilleux, un peu féerique, tantôt angoissant. et du coup aller pas dans une esthétique naturelle, mais vraiment partir en sucette et laisser l'imagination aussi se déployer sur ces images.
Oui, parce qu'au final, les morceaux sont des atmosphères très différentes, et pourtant, il y a toujours cette touche un peu d'étrangeté, presque dérangeante même sur certains clips. C'est un univers que vous vouliez retranscrire dans votre musique aussi, enfin quelque chose que vous vouliez partager.
Ouais. Bah, y a des choses aussi, tu sais, parfois quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on ferait dans le clip, etc. On fonctionne pas tout à fait pareil avec Gab. Genre, Gab, il peut aller genre, très dans le détail, dans une idée. Et moi, parfois, j'ai des espèces de flash un peu que genre, j'arrive pas trop à expliquer, juste des ambiances. Et du coup, par exemple, Nemesis, on a un peu décidé de le réaliser comme ça. C'est-à-dire de garder des choses un peu absurdes qui s'enchaînent sans trop d'explications, un peu comme un cauchemar, tu vois, quand tu fais des cauchemars, il y a des trucs qui s'enchaînent, ça n'a pas de sens, tu te réveilles, tu te souviens juste de l'espèce de flash rapide. Voilà, donc c'est un peu l'idée d'avoir ce truc étrange qui ne s'explique pas et qui juste esthétiquement marque tout de suite et a un impact direct quand tu le vois, quoi.
C'est vrai qu'un des choses qui nous a fait beaucoup avancer, c'est abandonner l'idée de narration dans un clip. Le clip raconte l'histoire de... Non, le clip met dans une atmosphère et essaye d'explorer une émotion. Et s'il n'y a pas de lien entre les tableaux, on s'en fout. C'est pas ce qui compte. Et on est rentré dans le même travail de détails et de nuances que ce dont on parlait au sujet des textes et des musiques tout à l'heure. Voilà, une émotion, la tristesse, elle est teintée d'espoir, etc. Ben, on a essayé de faire la même chose dans le visuel. Ok, c'est un morceau festif, mais une fête un peu chelou, un peu morbide. Et du coup, voilà, essayer de rentrer dans le détail aussi, là, sur les ambiances visuelles.
Vous avez été salué d'ailleurs à plusieurs reprises aussi pour des textes assez engagés, notamment par la critique, notamment par l'Humanité, il me semble, mais d'autres médias également. Vous abordez des thématiques comme l'écologie, par exemple, ou l'addiction au smartphone. Pour vous, la musique, c'est aussi un bon support pour dénoncer des choses et faire bouger les choses aussi ?
Bien sûr, mais on ne le voit pas que comme un outil pour la lutte, etc. C'est aussi assez spontanément que ça vient.
C'est assez égoïste à la base, dans le sens où c'est des sujets où on se sent nous concernés. C'est comme quand il y a une chanson d'amour qui tombe, c'est tes problèmes, bah on fait face à ces problèmes quand on est là avec nos téléphones à se dire putain, on peut plus se séparer de ces outils de l'enfer qui nous apportent aussi du bon, hein, mais voilà, on se rend compte quand même qu'on a un problème avec ces machines. Pareil sur tout l'aspect écologique, on veut pas juste dire ouais, c'est nimp, faut tout changer et tout.
Vous faites n'importe quoi.
Si on a fait ces chansons, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait partie d'une catégorie de personnes qui faisaient n'importe quoi, en fait. Et qu'il faut se remettre en question. Et tous ces morceaux sont plus sur ce travail-là de mise en perspective de soi par rapport à nos objectifs, en fait, et à l'idéal qu'on a de nous-mêmes et ce qu'on aimerait vraiment être. Et se rendre compte où on en est et se dire, OK, il faut traiter ça d'une manière. Donc, Atlas, par exemple, c'est un personnage ultra cynique. Un personnage dégueulasse. L'abondance, c'est plus nous face à nos questionnements. Donc, la volonté, c'est pas de taper du poing sur la table, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et par rapport à Atlas, qui est donc un morceau qui traite de la lutte contre le réchauffement climatique, etc., et qui a été du coup salué par Monsieur Mondialisation et l'Humanité, etc., c'est vrai que je l'ai écrit. Suite à une prise de conscience, j'ai toujours été très impliqué dans les sujets liés à l'environnement et j'ai réalisé qu'en fait on était sorti du schéma où une partie de la société était proactive dans la lutte contre le réchauffement climatique, tandis qu'une autre était réfractaire, était climato-sceptique, etc. Aujourd'hui, il y a un consensus réel sur le fait qu'il faut changer, la lutte contre le réchauffement climatique doit avoir lieu.
Il reste 2-3 zinzins qui pensent l'inverse, hein, quand même.
Bien sûr. Mais de manière générale, on a un vrai consensus et un vrai constat qu'il y a des risques énormes qui pèsent sur la société. Et du coup, quelque part, c'est plus une partie de la population qui est l'ennemi, c'est au sein de chacun de nous, puisque le résultat, ça reste qu'il ne se passe pas grand-chose, et qu'on fait preuve d'une mollesse absolument lamentable dans les actes. Et du coup, l'ennemi n'est plus une partie de la population climato-sceptique, c'est aussi une partie à l'intérieur de nous qui ne veut pas revoir son confort, ses ambitions, ses envies, à l'aune des risques qu'on encourt, et de ce qu'exige de nous cette transition écologique.
Le texte d'or dans Atlas, c'est « on ne peut pas porter le monde », il y a quelque chose aussi, un sentiment peut-être d'incapacité ou de choses trop grande en fait à accomplir aussi, soit tout seul face à sa conscience écologique. Est-ce que c'est comme ça que je l'ai pris moi personnellement, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Alors du coup, le personnage d'Atlas, c'est cette petite partie de nous qui dit bah je les laisse faire, je les laisse s'évertuer, acheter des tomates bio, payer plus cher pour des tomates bio, à se prendre la tête au fond. De toute façon, au fond, on est foutu. Et combien de potes nous disent ça? En vrai, on est foutu. À quoi ça sert de faire quoi que ce soit? Et c'est complètement con en plus, parce qu'on... Oui, c'est vrai que d'une certaine manière, on est foutu, mais en fonction de ce qu'on va faire, on va être foutu plus ou moins. Et du côté du moins, il y a des choses terribles qui nous attendent. Donc, c'est une réflexion totalement bête et irrationnelle, mais d'un autre côté, elle est présente. Elle est présente en moi, et je suis sûr qu'elle est présente dans les gens qui se sont sentis qui sont reconnus dans Atlas.
Ouais, et puis c'est comme... c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jeanne, sur les... Les contrastes, par exemple, ce morceau, la première fois on l'a joué sur scène, il n'était pas encore sorti. À la fin, il y avait des gens qui criaient « Portez le monde !» Portez le monde, parce que tout le monde a compris le gimmick du refrain, qu'il y a quelque chose de fort, d'entraînant, sur lequel tu peux te défouler, crier, t'es là avec ta bière et tes potes, et tu peux crier « Portez le monde !» Et après, les gens, quand ils écoutaient chez eux, ils captaient l'ampleur du truc, et du coup, mais ils peuvent aussi s'ambiancer juste sur le morceau. C'est ça qu'on essaye de faire, en tout cas.
Vous avez pu les défendre du coup un petit peu en concert, ces morceaux-là, avant que tout ne ferme.
ouais, on a pu, même entre les deux confinements, on a justement participé à la fête de l'humanité, à la session un peu exceptionnelle de la fête de l'humanité de cette année, quoi, qui n'était pas comme les autres. Mais en vrai, on était trop contents de remonter sur scène, de retrouver l'ambiance festival dans un mini espace. Mais sinon, ouais, on a fait pas mal de scènes. Bah, avec Mab, on a commencé, en fait, le projet a commencé par des tournées. On a fait le truc un peu dans le désordre. On a commencé avec des tournées hardcore, vraiment. On se trimballait avec un... On n'avait pas le permis, donc on se trimballait avec un diable. On mettait tous nos flycases dessus. On prenait genre 3 TER par jour et on a fait le tour de...
Et on se pétait en gros une vertèbre par jour, quoi.
On a fait le tour de la France comme ça, genre... un été, et après on a prolongé un peu l'été d'après, mais très vite, après il fallait qu'on se concentre sur la musique et la compo. Mais après on a fait pas mal de dates sur Paris, des premières parties, etc. Et là on a qu'une hâte, c'est de remonter sur scène. Pour nous, c'est l'aboutissement de tout ça, c'est aller faire vivre ces morceaux sur scène qui vont jamais être pareils en fonction de...
Du moment aussi.
Ouais, du moment, du public, de l'endroit, de je sais pas si les gens sont bouillants sur tel morceau ce soir-là. Il peut devenir important pour toi en tant qu'artiste, alors que d'habitude, il passe un peu inaperçu quand tu le joues, etc. C'est ça qui est important avec la scène, je pense, et qui manque aux artistes aujourd'hui.
Et c'est vrai que ce concert masqué, à jauge réduite, etc., qu'on a fait pendant le déconfinement, le fameux, c'était un vrai concert. C'était vraiment, il y avait des gens en face de nous, on voyait l'émotion dans les yeux, l'envie d'être présent. Et voilà, enfin, je suis pas expert dans le sujet, mais... C'est vrai qu'au plus tôt, on peut revenir à des concerts, même masqués, au mieux, ça sera pour tout le monde, pour l'hygiène de ce pays et pour la santé mentale des gens.
C'est quelque chose qui vous anime, vous, particulièrement, en tant que musicien aussi. C'est important pour vous, ce contact avec le public aussi.
Ah ouais,
c'est
carrément.
Totalement vital.
Ouais, c'est vital. Et puis, ça remet la notion de spontanéité, d'imprévu, ce qui est quand même genre ce pourquoi on fait de la musique de base. C'est que... Ça nous arrive en studio, c'est un peu ce qu'on espère le matin quand on commence à brancher des machines et tout, c'est tomber sur un truc de ouf en cherchant, mais sur scène, c'est ça qu'on va chercher, l'adrénaline juste avant d'y aller, le truc où tu flippes, et puis on a parfois des retours incroyables, enfin je sais pas, il y a des moments qui sont...
C'est vrai que le côté prise de risque en live, c'est quand même quelque chose de dingue. Et comme nous, on a une esthétique qui est assez léchée, tous nos morceaux en studio, ils sont carrés de fou, tout est bien cadré, les clips, ils sont nickels. En vrai, on prend des risques au moment de créer ces contenus, mais au moment de les publier, pour le coup, on est en contrôle total, on sait que les trucs ont été travaillés, qu'on les a fait valider par tout le monde, et c'est bon, c'est parti. Sur scène... la prise de risque, elle est en live, et évidemment qu'on veut présenter quelque chose de puissant, de carré, etc., mais il se passe toujours des choses imprévues, que ce soit des problèmes techniques ou juste une atmosphère, des énergies qui sont dans la pièce et qui n'étaient pas celles qu'on anticipait et à laquelle il faut s'adapter, sinon le concert va être moisi.
Ça permet de se surprendre soi-même aussi, c'est ça qui est agréable.
Et vous avez des dates du coup un petit peu pour cet été, ou pour l'instant tout est à l'arrêt?
Pour l'instant, ouais, disons qu'avec notre équipe, on s'est dit qu'on n'allait même pas genre, mettre de l'énergie dans chercher des dates. Tellement c'est incertain, on préfère... Bah, là, on planche sur le deuxième EP qui est déjà bien avancé, etc. Donc voilà, on se dit que l'énergie, il faut la mettre là-dedans, il faut s'adapter.
On n'a pas envie de perdre d'énergie,
d'être déçu et tout.
Ouais,
on va jouer, ah non, en fait, on joue pas.
Ça prend du temps aussi, le démarchage et tout ça.
Ouais, ça prend du temps. Et puis en vrai, on voit tous nos potes musiciens intermittents qui sont en train de compter le nombre de dates qui ont été annulées. C'est terrible.
Et après, il faut savoir quelque chose qui est un peu triste, c'est que quand les concerts vont reprendre, les groupes émergents dont on fait encore partie vont pas être la priorité des tourneurs et des salles de concert. Et donc, dans cette mesure-là, on a encore moins de chances. Enfin, voilà, le ratio énergie-résultat est encore plus bas que jamais, quoi, sur ce sujet. Donc, là où on est fort, c'est pour être présent sur les réseaux sociaux, faire des morceaux, faire du studio, et tant que c'est ça le plus impactant, c'est ça qu'on priorisera.
Et du coup, votre EP MAB, avant de pouvoir le découvrir en concert, on peut le retrouver sur les plateformes Spotify, il me semble, YouTube aussi, Deezer. Ouais. Est-ce qu'il est possible de le trouver en physique aussi dans certains disquaires ?
Pas encore chez les disquaires, on va certainement s'en occuper, mais sinon juste sur notre site internet, MAB officiel. On a une boutique en ligne, vous le commandez, on le dédicace, on vous l'envoie chez vous avec des mots d'amour incroyables.
C'est ça, il suffit de taper MAB, site officiel, sur Google. Et vous tombez a priori sur le... Peut-être en tapant un morceau, Atlas par exemple, vous tomberez sur le site internet. Et en dehors de ça, effectivement, iTunes, Deezer, Spotify, Napster, Qobuz et tous les trucs les plus obscurs aussi.
Peut-être forme qu'on connaît pas trop.
Donc non, il est disponible partout. On est aussi disponible sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook, tout ça. Voilà.
Mais le physique, c'est important.
Mais
l'objet, le disque et tout, ça fait quand même plaisir. Même nous, on est content.
C'est pas le même rapport à l'écoute.
Ouais, c'est cool déjà de se le faire en entier d'un coup et pas enchaîner des singles dans des playlists Spotify. C'est pas la même chose. Je kiffe faire ça aussi, mais c'est important parfois de se manger un album entier. Et puis l'objet, quoi. Enfin, je sais pas, moi je kiffe.
Parce qu'un album est pensé dans une continuité entre les morceaux aussi.
Ouais, exactement. Et puis du coup, tu te plonges un peu dans l'univers. Il y a des trucs, des clins d'œil entre les morceaux que tu captes.
Après, c'est vrai que chaque fan a sa propre set et sa propre manière de consommer la musique.
Bien sûr, hein,
et on était surpris de voir hier, dans les commandes de disques qu'on a reçues hier, de voir des gens qui interagissent jamais sur nos pages Facebook ou Instagram, etc., qui ont acheté le disque. Et à l'inverse, des gens qui sont là au quotidien, qui nous aident, qui partagent, qui commentent, etc., qui vont pas forcément acheter le disque parce qu'ils ont une autre manière de se connecter.
Ils sont en mode plateforme à fond, playlist et tout. Donc chacun son truc. Quoi.
Exactement.
Ben merci beaucoup, Adrien et Gabriel.
Merci à toi.
Merci, Jeanne, c'était très agréable. Merci pour tout.
Donc, vous êtes tous les deux membres de MAB, un duo qui mélange un son pop électro, du coup, de la pop du turfu, un peu nouvelle chanson française, en quelque sorte, un peu influencée par Stromae, notamment, qu'on a évoqué tout à l'heure. En février dernier, donc, vous avez sorti votre premier EP éponyme, qu'on peut découvrir dès à présent donc, sur les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, tout ce qu'on vient de citer, et puis sur votre site internet également. Pour terminer cette émission, d'ailleurs, je vous propose d'écouter le morceau Atlas qu'on a évoqué tout à l'heure, donc le troisième titre de votre EP.
Que personne ne touche à mon petit confort. Que chacun respecte son rôle dans l'équipe conforme. Vous les tarés, ce qui vous intéresse, c'est porter le terrestre fardeau. Moi, je vous regarde, je me fais les abdos. Je ne porterai pas le monde, quitte à me le mettre à dos. Lâchez rien, portez le monde. Je vous regarde faire les gars, portez le monde. Allez, portez le monde. Atlas, Atlas, lâchez rien, portez le monde, je vous regarde faire les gars, portez le monde, allez, portez le monde, Atlas, Atlas. Mon boss c'est Lombert, allez portez le monde. Soulevez le globe semble vous enlever un poids. Je vois que vous avez la grande gueule de l'emploi. Par contre il vous manque la force et le nombre. La guerre avec un canif, sauver la planète avec des tomates bio. Pourquoi pas changer le climat avec une manif. Vos têtes de naïf, continue de rêver même posé sur un bio. La planète ne tiendra pas. Autant profiter de ce qu'il en reste. Ne m'en voulez pas si je m'engraisse. Je ne vous en voudrais pas si le monde tombe à plat. Vous dites que j'ai tort. Alors c'est comment. Je suis en vous, sortez le monstre. Vous savez que c'est mort. Et alors c'est commun, tous ceux qui y croient encore, allez-y, portez le monde. Lâchez rien, portez le monde, je vous regarde faire les gars. Portez le monde, allez, portez le monde. Atlas, Atlas. Lâchez rien, portez le monde, je vous regarde faire les gars. Portez le monde, allez, portez le monde. Atlas, Atlas. Lâchez rien, portez le monde, je vous regarde faire les gars. Portez le monde, allez, portez le monde. Atlas.
Nous sommes les mêmes, mesdames, messieurs. Me faites pas croire que je suis le seul à ne pas vouloir porter les cieux. N'ayez pas le seum. Nous sommes les mêmes, mesdames, messieurs. Me faites pas croire que je suis le seul à ne pas vouloir porter.